Bienvenue à cette dernière séance du cours programme égal démontré. Et donc aujourd'hui, le programme est un peu spécial, donc nous commençons par le séminaire. Donc l'orateur du séminaire est Thierry Coquan. Donc Thierry est un informaticien, logicien, mathématicien, qui a commencé donc sa carrière en France, à l'INRIA, puis ensuite parti en Suède, à Göteborg, donc où il est actuellement professeur. Et donc les trois premières lettres de son nom ont donné son nom au calcul des constructions, Calculus of Construction, COC, ainsi qu'à l'assistant de prof Koch, COQ. Donc vous voyez à quel point il a contribué et il continue à contribuer à ce domaine, donc de la logique constructive et son application à la démonstration sur machine.
Thierry. Très bien, merci. Oui, donc le sujet de ce séminaire, ça va être d'essayer de donner quelques remarques sur l'histoire de quelques idées du domaine. Donc ça va être par nature très partiel et très partiel. Donc une première remarque, en fait, c'est que le sujet de ce cours, en général, la correspondance de Curie-Howard, cette correspondance a juste 50 ans ce mois-ci. Donc on peut la voir comme cette correspondance est née des travaux de Brun et de Howard, Bill Howard. Et De Brun donc, a présenté son papier sur Automate en décembre 68, donc à une conférence qui a eu lieu à l'IRIA. Donc, c'était le nom de l'INIRIA à l'époque, en 68. Et Howard a eu l'idée de formule comme type en 69, mais en fait, je pense donc c'était en janvier, février, mars 69, donc c'est 60 ans aujourd'hui. Donc c'est une sorte d'anniversaire. Je vais parler d'un aspect de cette correspondance. Donc c'est sur le calcul des constructions, donc qui est un travail de 1984. Et ce travail, c'était une synthèse donc des travaux de Brun, Jean-Yves Girard et de Martin Loff. Donc je vais insister surtout sur l'influence de Brun. Donc la plupart de ces papiers sont maintenant disponibles sur une archive. Et deux papiers ont été assez importants pour l'histoire de ces idées. Donc c'est un papier qui décrit de 73, qui décrit le langage automate, et un papier de Yuting, qui donne un exemple concret dans Automate. Une propriété mathématique assez simple, mais non triviale. Donc, c'est que si une fonction d'un ensemble fini sur lui-même est injective, alors cette fonction est surjective. Et le papier donne en détail comment on peut analyser cette preuve et comment ce système de notation de preuve peut être utile à analyser une preuve mathématique. Et donc, pour moi, ça a été vraiment une révélation, ce papier, parce que c'était donc on pouvait mettre au point un système formel pour analyser la notion de preuve mathématique et avoir un bon système de notation pour être sûr de la correction d'une preuve mathématique. Donc, dans le papier où De Brun fait une sorte de survey du projet Automate, donc il remarque cette idée de proposition comme type. Et tout à fait, ce n'est pas la manière de penser des mathématiciens, mais en fait, c'est très très près de la manière dont les mathématiciens actuels font les preuves. Et donc, il donne un exemple que je voudrais reproduire ici. Donc, c'est la représentation d'un énoncé dans un texte mathématique. Et j'ai repris l'énoncé de Brun. Alors, un mathématicien va énoncer un théorème, donc soit x un nombre réel tel que f de x est plus grand que 1, et soit n un entier. Si on a g de x strictement supérieur à x puissance n, alors f de x est plus grand que n. Donc, si un mathématicien veut utiliser cet énoncé plus tard pour déduire des conséquences, avec une valeur donnée de x et une valeur donnée de n, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit fournir d'abord une preuve de f de p est plus grand que 1, et après une preuve de G de P est plus grand que P puissance 5. Donc il peut énoncer F de P est plus grand que 5, donc la conclusion du théorème, en appliquant le théorème 1 et en donnant, donc c'est ce qui est important, c'est il va donner dans cet ordre, exactement, Donc il va donner d'abord P pour x. Ensuite, il va donner la preuve de f de P est plus grand que 1. Ensuite, il va donner 5 pour n. Et il va donner la preuve 2 de g de P est plus grand que P puissance n. Donc on voit que dans la pratique mathématique, en fait, il y a un mélange des preuves et des valeurs, des nombres réels. Donc c'est l'idée vraiment de propositions comme type. Et cet exemple montre bien que cette idée de proposition comme type est naturelle dans la pratique mathématique. Donc dans le système automate, donc cela sera représenté par l'acte mathématique, l'acte du mathématicien va être de déduire le corollaire en appliquant le théorème 1, donc à P, à la preuve, à l'entier 5, à une preuve, et il va en déduire l'énoncé A, où l'énoncé A, c'est l'énoncé G de P est plus grand que P puissance 5. Donc une autre idée, donc c'est une première idée dans Automate, et une autre idée donc, qui va être absolument cruciale par la suite, et qui est donc de manière intéressante, donc ça a été suggéré par De Bruijn par un langage de programmation, le langage Algol 60. Donc c'est la notion de structure de bloc qui a suggéré la notion de contexte. Et cette notion n'était pas dégagée en logique ou en mathématiques. Donc qu'est-ce qu'un contexte ? Ça va être une suite de déclarations de variables d'objets avec leur type et de noms d'hypothèses et dans un ordre arbitraire. Donc on va mélanger les. Donc pour cet exemple-là, on va d'abord déclarer le contexte de cet énoncé mathématique, ça va être un nombre réel x, donc x est de type R, une hypothèse qu'on a une preuve que f de x soit plus grand que 1, un entier n, et une hypothèse qu'on a une preuve que g de x est plus grand que x puissance n. Et Automate introduit une sorte primitive type aussi pour représenter le type donc des sortes d'objets mathématiques comme le R ou N. Et donc dans Automate, on va avoir ce contexte-là pour représenter cet objet, cet énoncé où R va être déclaré de type type, N est de type type. Et on traite, donc quand on veut représenter ces preuves sur machine, donc ça va être très naturel donc, de traiter de manière uniforme les preuves et les objets mathématiques, ou les énoncés mathématiques et les types d'objets mathématiques. Et donc Automate aussi va introduire une sorte primitive propre. Et comme il y a un traitement uniforme des objets et des preuves, c'est très naturel de considérer la. Donc une des possibilités, ça va être d'avoir propre égale type. Et on va avoir donc l'idée de proposition comme type. Et ça, c'est une possibilité dans Automate. Et en fait, un des premiers exemples dans Automate, donc c'est l'exemple de. L'exemple de l'égalité qui va être traité comme un type. Et pour présenter cet exemple-là, donc je vais aussi utiliser une des notations un peu étranges pour un mathématicien d'automate, mais qui est aussi suggérée par la représentation sur machine, c'est qu'on a un traitement uniforme en fait, du produit dépendant et de l'abstraction typée. Donc automate utilisait la même notation pour l'abstraction typée, donc x de point A, lambda x de point A, m, et pour le produit dépendant, produit x de point A, b. Et de cette manière-là, on obtient un calcul assez minimal, donc il y a une extension assez directe du calcul de Church, lambda calcul de Church. Donc on a variable, application, et la seule différence avec le calcul de Church, c'est qu'on a une sorte primitive type, qui est aussi représentée pour les propositions, et l'abstraction typée, qui est aussi utilisée pour le produit dépendant. Et avec ces notations, donc, De Bruijn montre un des premiers exemples qu'il donne dans le papier de 68, c'est la notion d'égalité sur un type A, qui est représentée comme un type dépendant, donc, le type, mais qui est axiomatisé. Donc l'axiomatisation que De Bruijn donne, c'est qu'on a l'égalité qui est réflexive et qui est une relation euclidienne, c'est-à-dire que donc, l'axiome d'Euclide, si x est égal à z et y est égal à z, alors x est égal à y. Et le premier exemple de De Bruijn, c'est de montrer à partir de ces axiomes-là la symétrie. Et donc on voit qu'on peut représenter une preuve mathématique et représenter de manière très naturelle à l'aide de cette notation. Donc on applique l'axiome euclidien à y, x, y, à la preuve de réflexivité et à l'hypothèse h que x est égal à y. Donc on a déjà, dès le départ, on a cette idée d'un traitement uniforme des propositions et des types. Et on a cette idée donc, qui va avoir des conséquences remarquables par la suite, que l'égalité en fait, peut être représentée comme une famille de type dépendant. Donc les règles du système sont très très simples. Et en fait, donc la règle d'abstraction, c'est la règle suivante, et la règle de typage, c'est la règle suivante. Donc avec cette notation, donc c'était très naturel en fait, d'uniformiser ce qui n'était pas fait dans l'automate, d'uniformiser la règle de produit et de considérer, donc c'est ça comment on est passé de automate, donc pour représenter le système F, la seule modification qu'on doit faire à automate, c'est d'uniformiser la règle du produit dépendant et de considérer que le produit de X de point A à B est un type, si B est une famille de types et A est un type arbitraire. Donc c'est une modification formellement très simple, mais dont on va voir les conséquences après. Et avec ces notations-là, on voit donc la caractéristique. Comme on a la même notation pour le produit dépendant de l'abstraction typée, donc on a ce jeu de passage d'un contexte à l'abstraction. Donc on peut passer de gauche à droite et de droite à gauche. Et cette idée d'uniformisation est tout à fait remarquable et vient donc du système automate. Donc si on note, comme on fait d'habitude, donc A flèche B pour X de point A à B, si X n'est pas dans libre dans B, avec cette modification, on obtient, par exemple, représentation du type de l'application identité polymorphe qui va être représentée de cette manière-là. Et donc, ce qui était une des conséquences d'introduire cette modification à automate, c'est qu'on peut utiliser donc, les codages de Russell et de Prawitz et représenter, donc, dans ce langage qui est assez minimal, en fait, on a une représentation, un codage des connecteurs logiques, comme l'absurdité et la conjonction. On peut coder l'égalité, donc on n'a pas la peine de... on peut la définir, c'est plus la peine de l'axiomatiser comme dans Automate, de cette manière-là. Et on a les codages aussi des types de données, donc qui étaient nouveaux à l'époque. Donc il y avait juste le papier de Böhm et Berarducci, donc qui montrait en fait qu'on avait une manière uniforme de coder les types de données, comme le type de liste, qui généralisait les codages qui avaient été introduits par Church, donc le codage de type des booléens. Par Martin Loff avait ce codage des entiers. Et en fait, donc, dans ce système minimal, la surprise, c'est qu'on pouvait... donc c'était une sorte de paradis des logiciens. Au moins, c'était l'impression que ça donnait au départ, c'était qu'on avait un système minimal dans lequel on pouvait tout coder, à la fois les types de données et les connecteurs logiques. Alors malheureusement, comme on va le voir par la suite, c'était seulement une illusion, parce que donc, ça ne marche pas si bien que ça. Mais c'était le point de départ, et pourquoi ce système était intéressant, c'est que c'était ce contraste entre une axiomatisation assez minimale et l'expression logique du système. Donc on obtient de cette manière le calcul des constructions, donc il y a une synthèse entre automate et le système F, et on obtient une manière uniforme de représenter non seulement le système F, mais aussi le système F oméga de Jean-Yves Girard. Aussi la logique d'ordre supérieur de Church. Et donc si on regarde la thèse d'état de Jean-Yves Girard, donc il y a cette idée de traitement uniforme. Donc Jean-Yves Girard avait des notations tout à fait différentes pour la représentation des preuves et la représentation du système simplement typé, qui correspond à F oméga. Ici, on a un traitement uniforme dans les notations pour représenter les deux niveaux, ces deux niveaux-là. Et donc, ce qui est essentiel aussi, c'est que la vérification des preuves se réduit à un problème de vérification de type. Et donc, comme je travaillais dans l'équipe formelle, donc Gérard Huette, donc une idée essentielle, c'était... une méthode essentielle aussi, c'était de tout représenter. Tout devait être représenté sur machine, effectivement. Et donc, en fait, ce système était représenté sur machine et on pouvait commencer à jouer avec. Donc, ça a été aussi un aspect essentiel de ce travail. Et en fait, un des premiers exemples représentés dans ce système, c'était le résultat qui est prouvé dans le livre de Frege, donc Idéographie, qui est un livre absolument remarquable donc dans l'histoire de la logique, où Frege introduit non seulement donc, les quantificateurs, mais aussi la logique d'ordre supérieur. Donc les connecteurs primitifs de ce système, c'était l'implication et la négation. Donc ce qui est remarquable, c'est la manière de Frege d'axiomatiser le calcul propositionnel, qui était les axiomes qui correspondent à SEK, au départ. Et un des aspects absolument essentiels donc, du système de Frege, c'était la règle de quantification universelle, donc, qui est maintenant est vraiment standard. On ne remarque pas à quel point cette règle était essentielle, mais donc c'était une idée absolument révolutionnaire. C'était qu'on pouvait représenter de manière finie quantificateur universel. Donc, quantificateur universel, celle, c'est quelque chose qui va parler de quantification sur des ensembles peut-être infinis. Donc ce qui est remarquable, c'est qu'on peut représenter ceci de manière finie par cette règle-là. Et au niveau de la notation mathématique, donc, cette règle-là a une condition qui est très subtile, c'est que x ne doit pas être libre dans psi. Donc là, c'est aussi, on a la première en fait, apparition de la notion qu'il faut faire attention aux variables liées, aux captures de variables, et la notion de variable libre. Et ça, c'est un aspect donc, révolutionnaire de contribution de Frege. Et ce que je trouve remarquable, donc, c'est la manière dont cette règle-là est représentée dans le système automate. Donc c'est juste cette règle-là qui est si importante, c'est juste la règle d'introduction de lambda abstraction. Et donc aussi un aspect intéressant de la notation, de cette introduction de contexte, c'est qu'on n'a pas comme dans les représentations ordinaires de la logique où on a un ensemble de variables infinies, là, dans cette représentation, à chaque instant, en fait, on manipule seulement un nombre fini de variables qui est représenté dans le contexte-là. Et ça, comme je l'ai dit précédemment, donc c'est une idée qui vient de l'informatique, et la notion de structure de bloc. Donc dans ce livre, Frege prouve que la clôture transitive d'une relation fonctionnelle définit une relation d'ordre linéaire. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il doit représenter donc comment coder la notion de clôture transitive dans un langage de la logique d'ordre supérieur. Un autre exemple de codage d'une relation inductive, donc c'était la preuve de Gérard Rouet, de lemme de Newman, qui utilise un principe d'induction noethérienne. Donc, et là, si on a une relation R dans ce système, on a une manière, on peut représenter le codage du fait que la relation R est noethérienne de cette manière-là. Donc ça fournit un système formel où on peut analyser cette notion de relation inductive, et ça a été aussi essentiel par la suite. Donc un article qui analyse cette notion-là de manière systématique. Donc c'est cet article de Christine et de Frank Fennig, 89. Et par exemple, donc ça suggère cette notation-là suggère des représentations qui seraient assez difficiles, par exemple, si on utilisait les notations de la thèse d'état de Jean-Yves Girard. Je ne pense pas qu'on aurait eu l'idée de représenter le codage du système F2 dans le système F3. Et là, ça devient assez naturel donc, avec cette notation-là. Et c'est une des contributions de ce papier-là. Donc c'est l'importance des notations en fait en logique et en mathématiques. Une autre contribution essentielle d'Automate, donc qui est en fait un des points de discussion contemporain maintenant, même dans la pratique, donc c'est un des points de discussion, c'est est-ce qu'on doit avoir une égalité définitionnelle ou pas. Donc cette notion d'égalité définitionnelle qui n'apparaît pas dans l'épreuve, donc qui a été introduite en lambda calcul et en logique combinatoire, est tout à fait distincte de l'égalité introduite comme type. Donc De Bruijn appelait book equality. Donc on a vu que De Bruijn axiomatisait l'égalité comme type, mais Automate a une autre notion d'égalité qui n'est pas formulable dans le système, donc qui correspond à la bêta conversion et la eta conversion. Et cette notion d'égalité définitionnelle n'est pas présente dans Frege. Donc dans Frege, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il montre comment on peut définir dans la logique de supérieur des prédicats inductifs, mais il a quand même une égalité primitive, alors qu'il pourrait a priori la définir, mais il a besoin d'une égalité primitive justement pour exprimer les définitions. Donc il utilise cette égalité primitive pour exprimer les définitions, et Frege n'a pas cette notion d'égalité définitionnelle. Donc c'est aussi un des aspects tout à fait... une notion tout à fait nouvelle donc, qu'on trouve dans Automate. Et ce que je trouve intéressant, donc, c'est qu'on avait un système de notation pour les preuves. Donc en fait, quand on a représenté la preuve de Frege, donc, par exemple, on a ce phénomène qu'une des premières preuves de Frege, quand Frege prouve que le codage de la clôture transitive est effectivement transitive, on voit qu'il utilise un même lemme de deux manières différentes dans une preuve. Donc on peut commencer à utiliser ce système-là pour analyser les preuves. Alors, une des questions donc, qui était importante, c'est est-ce que donc, ce calcul était minimal, pouvait définir beaucoup de types de données et de connecteurs logiques, mais est-ce qu'il était cohérent ? Et la question était tout à fait pressante, parce que donc, Martin Loff avait introduit un calcul très similaire, avec un axiome petit deux points type, dans lequel Jean-Yves Girard avait donc, donné un paradoxe. Et aussi, le calcul devient incohérent dès qu'on a introduit une somme forte avec cette règle de typage. Et en fait, dans le système, on peut définir la quantification existentielle de cette manière-là. Et donc, ça semble très proche de cette somme forte, mais en fait, avec cette représentation de la quantification existentielle, on a seulement la première projection et pas la deuxième projection. De manière, heureusement, parce que sinon... Donc on aurait un paradoxe. Donc la question du paradoxe était tout à fait pertinente. Notre phénomène aussi, c'est qu'on peut définir donc 0 et 1 à la manière de Church, mais qu'il ne semble pas possible dans ce système de prouver que 0 est différent de 1. Donc le soir de ma thèse, j'ai eu deux remarques qui ont été importantes pour la suite. Donc une remarque d'abord de Jean-Yves Girard, qui m'a dit que le calcul des constructions tel que je présentais avec deux niveaux d'imprédicativité devait être incohérent. Et la deuxième remarque, c'était par Nicolas De Bruyne, donc qui m'a dit, en fait, donner une version très concrète du paradoxe de Russell sur les ensembles. En fait, c'est qui m'a fait la remarque qu'en fait, qu'on pouvait représenter les ensembles par des arbres. Et en fait, c'était comme ça qu'il fallait vraiment penser aux ensembles, et on avait une version tout à fait concrète. Donc si on prend les arbres qui ne sont pas des sous-arbres immédiats d'eux-mêmes, on a un paradoxe qui est tout à fait similaire au paradoxe de Russell, mais qui est beaucoup plus concret que les arbres. Donc on n'a pas besoin, en fait, pour ce paradoxe, de considérer les arbres à bisimulation près. Donc ça a été un sujet de méditation pour l'année à venir. Et donc j'ai appliqué la méthode de Jean-Yves Girard, et donc j'ai voulu représenter donc, le paradoxe de Girard effectivement sur machine, en fait, pour vérifier la preuve de Girard dans sa thèse d'état, donc, qui était assez subtile, et qui utilisait donc, par exemple, un des aspects intéressants de cette preuve, c'est qu'elle utilise une idée qui va aussi être très importante par la suite, c'est que l'égalité entraîne l'isomorphisme. Donc c'est une idée qui est déjà utilisée dans le paradoxe de Girard. Et en fait, donc quand on analyse ce que faisait Jean-Yves Girard, c'est qu'on voit qu'en fait ce paradoxe s'applique exactement à l'extension du système où on a deux niveaux d'imprédicativité. Donc si on ajoute un type 1 au-dessus de type et on rajoute ces deux règles-là, on a un paradoxe. Donc un des aspects intéressants de représenter ce paradoxe sur machine, c'est qu'on peut commencer à analyser la réduction de ce terme. Et en fait, donc, en même temps, il y avait un papier aussi remarquable d'Albert Meyer et Mark Reinholdt, Type is not a type, qui faisait la remarque que si ce paradoxe se réduisait sur lui-même, quand on analyse cette preuve, on obtenait en fait un codage du combinateur de points fixes dans type de point type. Et donc, comme on avait une représentation effective de ce paradoxe sur machine, on pouvait regarder la réduction, et malheureusement, donc le paradoxe tel que je l'avais représenté ne se réduisait pas sur lui-même. Donc on n'avait pas un codage d'un point fixe. Et alors, donc pour avoir un système cohérent, il faut imposer cette règle de typage à la place. Et donc, on obtient, on arrive ici à un système avec une hiérarchie d'univers, mais cette hiérarchie d'univers, pour éviter le paradoxe, cette hiérarchie d'univers doit être prédicative. Et il est naturel, très naturel donc, de revenir à la notation propre pour la sorte imprédicative de base type, et on obtient cette règle donc, qui reste la même pour la sorte propre. Donc c'est que quand on quantifie sur un type arbitraire, sur une proposition, on a encore une proposition. Alors, une question naturelle, c'était donc ce système-là, donc il y a une extension de la... On obtient une extension du système de Church. Comment ce système se compare au système de théorie des ensembles? Et en particulier, comment ce système se compare avec le système Zermelo et le système Zermelo-Frankel? Donc, Zermelo-Frankel, donc ce système est représenté dans Zermelo-Frankel, donc ce système est plus faible que Zermelo-Frankel, mais il y avait la question de comment relier ce système avec le système Zermelo, et donc cette question a été résolue 15 ans après par Alexandre Michel, et la manière dont il a résolu ce problème est très élégante, donc je vais en dire quelques mots. Donc d'abord, c'est que même avec un niveau prédicatif, on peut encore représenter un type NAT de cette manière-là. Mais maintenant, comme c'est prédicatif, NAT ne va pas être de type 1, mais sera de type 2. Et on peut quand même définir donc 0 et successeur. Et on peut, donc, dans un système qui est purement logique, on peut obtenir, on peut montrer l'axiome d'infinité cette fois. Donc, avec ce codage, on peut montrer que 0 est différent de successeur et que successeur est injectif. Donc, c'est une première remarque. Et deuxième remarque d'Alexandre, c'est qu'en fait, il y a un codage très naturel des ensembles, mais donc l'idée nouvelle, c'est que c'est les ensembles non nécessairement bien fondés dans ce système-là, parce qu'on peut représenter donc les ensembles comme des graphes pointés à bisimilarité près. Et comme on a une prédicativité, on peut définir la bisimilarité, et les graphes pointés vont être représentés. Et la notion de bisimilarité sur les graphes pointés. Donc on obtient un codage des ensembles, très naturel, et tous les axiomes de Zermelo sont vérifiés dans ce système-là. Donc ce système est plus fort que le système de Zermelo. Mais en fait, donc le problème de ce système, c'est le problème avec la représentation des types de données. Donc on a plusieurs problèmes. D'abord, on ne peut pas montrer le principe d'induction, si on doit faire une relativisation de ce type NAT. On doit définir un prédicat d'être bien formé pour les entiers pour obtenir l'axiome d'induction. La représentation de la récursion primitive récursive est possible, mais n'est pas très naturelle. Et une question donc, plus fondamentale, qui va. Donc, peut-être. Donc, il y a des éléments de réponse donc, maintenant avec les contributions de Voïvodski, c'est qu'il y a une différence entre les fonctions et les relations fonctionnelles. Donc, dans ce système-là, on va avoir une représentation très riche des relations fonctionnelles sur le type NAT, mais certaines relations fonctionnelles ne vont pas correspondre à des fonctions définissables. Donc, toutes ces questions-là, ces problèmes-là, suggèrent l'introduction de types de données de manière primitive avec des lois de calcul en suivant Martynov. Et donc, quand on rajoute l'étude de données, donc on obtient une synthèse entre le système automate et le système de Martynov. Donc, pour résumer certaines contributions, donc pour automate, la contribution, c'était la notion de contexte et cette idée de réduction de vérification des preuves à un problème décidable de vérification de typage. Et contribution de Martynov, donc c'est type de données primitif. Correspondance entre la notion constructeur et loi d'introduction en logique, en déduction naturelle. Quand ce travail était effectué, donc on est 84-85, donc le système de Martynov n'avait pas cette idée de réduction de vérification des preuves au problème de vérification de typage. Donc le système que Martynov considérait entre 79 et 86, ajouter une règle donc, pour la représentation de l'égalité qui détruisait donc, la décidabilité du typage. Et une autre idée due à Martynov et peut-être inspirée donc, par Bishop. C'était l'idée de correspondance entre les preuves constructives et l'algorithme, et donc la suggestion d'une approche possible au problème de la correction de programme, qui est formulée de manière aussi remarquable dans le papier de 1979 de Martin Love, qui est en fait donc comment on peut construire des programmes corrects. C'est en fait on va prouver, on va réduire la relation, la notion de programme à la notion de preuve. Donc l'objet de ce cours. Donc c'était ce qui a été fait dans ces, quand on obtient donc l'introduction des types de données primitifs en théorie des types. Donc on obtient un système, donc là on peut reformuler la question de la correspondance avec la théorie des ensembles. Et là la question est tout à fait non triviale. Donc comment ce système se compare à la théorie des ensembles. Il y a des travaux donc Michael Ratian sur ce sujet. Donc et en fait le système qu'on obtient est plus faible que Zermelo-Frankel. Et donc aussi cette correspondance entre les types de données primitifs et la notion de constructeur donc suggère aussi des connexions plus étroites avec l'informatique. En particulier, donc on peut se poser la question d'avoir une représentation efficace des calculs dans ce système. Donc la contribution importante, ce papier donc par Benjamin et par Xavier. Donc comment représenter de manière efficace les calculs dans ce système-là, et qui a rendu possible la représentation preuve de théorème des quatre couleurs par Georges Gontier et Benjamin Werner. Et donc un test de cette idée de représenter les preuves a été un test concluant, donc, je pense. C'était donc la preuve du théorème de Fett et Thompson, donc, qui lui aussi utilise la représentation le fait qu'on peut représenter. On a une manière uniforme de représenter les preuves et les calculs. Donc, ce qui se passe quand on représente les lois logiques de cette manière-là est aussi remarquable. Donc, ça, c'est une contribution très importante de Martin Love. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on veut représenter, par exemple, donc, les règles de déduction naturelle, donc, par exemple, les règles sur la disjonction. Donc, la représentation naturelle va être celle-ci. Donc, on aura les constructeurs habituels de la disjonction et la règle d'élimination qui va être représentée donc, par une définition par K sur A plus B. Mais en fait, quand on représente cette règle-là, ce système, c'est très naturel de généraliser cette règle d'élimination de la manière suivante, donc en utilisant vraiment l'idée qu'on a des types dépendants. Donc on va remplacer la fonction de A plus B dans C, on va remarquer que C en fait peut dépendre de Z. Et ça, donc, c'était formulé par Martin Love dès 1971. Donc ce raffinement de la règle d'élimination de la disjonction, qui est très naturel dans ce formaliste de type dépendant. Et Martin Love donc, représente aussi, réalise qu'on peut aussi généraliser la règle d'élimination même pour l'absurdité. Donc on va avoir cette règle d'élimination. Ce que je trouve remarquable, c'est que en fait, Wojcicki a été le premier à utiliser ce raffinement de la règle d'élimination sur l'absurdité. Et la règle d'élimination sur les entiers donc, va être raffinée de cette manière-là. Et la surprise, on obtient de manière naturelle la récursion primitive récursive. Donc c'est très naturel aussi, et c'est suggéré par le formalisme. Et Martin Love, donc en 73, donc réalise qu'on doit pouvoir faire la même chose pour la relation d'égalité. Donc la relation d'égalité est la plus petite relation réflexive. Mais en fait, donc qu'est-ce qui se passe si on essaye de représenter que C doit dépendre aussi de la preuve d'égalité. Donc on obtient cette règle-là, donc qui est la règle d'élimination formulée par Martin Love, où là on a l'idée que le type d'égalité peut, en fait, ça peut être intéressant de regarder les preuves de l'égalité. Et c'est juste suggéré donc, par le formalisme donc raffinement de la règle en déduction naturelle de l'élimination de l'égalité. Et c'est une loi nouvelle, en fait. Donc, ce qui est remarquable, c'est une loi formulée en 1973, mais c'est une loi nouvelle pour l'égalité qui n'avait pas été formulée avant. Et donc, c'est vraiment naturel dans ce système où on a le contexte. On doit représenter le contexte de l'énoncé. Donc, le contexte, c'est le contexte suivant. Et la preuve apparaît dans ce contexte-là. Et donc, ça suggère l'idée qu'il doit être naturel de considérer qu'il y a plusieurs manières d'identifier deux éléments de A en général. Et en fait, cette loi-là va avoir à des conséquences remarquables, donc qui n'ont pas été formulées par Martin Loew, qui ont été formulées plus tard, donc par Martin Hoffmann et par Thomas Streicher. C'est qu'en fait, une conséquence, un mathématicien ne penserait pas à formuler, parce que un mathématicien ne penserait pas naturellement à parler des preuves d'égalité. Donc c'est le fait que ce type-là, si on forme ce type-là, donc là où on doit vraiment considérer le type d'égalité comme un type, ce type-là a la propriété remarquable que tout élément de ce type est égal à A ref de A. Donc ce type-là n'a qu'un élément. Donc une conséquence remarquable de ce fait, c'est que tout type définit un groupoïde, une structure de groupoïde, et même une affinité de groupoïde. Et ce qui est étonnant, donc, c'est que dans un autre domaine tout à fait différent, dans le domaine de l'homotopie, donc Jean-Pierre Serre avait formulé une loi tout à fait similaire pour les espaces de Lacet, où il prenait donc, ce fait-là, dans la formulation de Jean-Pierre Serre, ce fait-là était vraiment le point de départ de sa thèse. Donc c'est un exemple où le formalisme, donc jouer avec le formalisme, suggère des idées mathématiques intéressantes. Donc on a l'idée que ce type-là, donc la proposition que A et B sont égaux peut être vue comme un type. Est-ce qu'il est naturel de considérer que ce type peut avoir plusieurs éléments? Alors la réponse est oui, donc si on joue sur les mots, donc si on considère que ce type-là n'est pas le type des égalités de A et de B, mais ce type-là est le type des identifications de A et de B. Donc ce type-là est vraiment le type des identifications de A et de B. Et là, je vais essayer donc d'expliquer dans la suite que cette notion d'identification apparaît de manière naturelle en mathématiques, dans la pratique mathématique. Donc ce que ça suggère, c'est que une fois qu'on voit que maintenant qu'on veut considérer ces lois d'identification, la notion d'identification, donc on se demande quelles sont les lois d'identification, et ce que je vais essayer d'expliquer, donc c'est que ce formalisme des types dépendants semble très très bien. Vraiment semble être un très bon formalisme pour exprimer ces lois. Quelles sont les lois d'identification qu'on voit en mathématiques? La première loi d'identification, c'est quand on a un ensemble, donc on veut identifier des éléments qui sont égaux. Mais maintenant, on se pose la question d'identification de collection d'objets mathématiques. Donc là, on a, de manière naturelle, on voit qu'il y a plusieurs identifications possibles. Donc la première en mathématiques, pratique mathématique, la première réalisation de cette idée, donc c'est quand on considère les structures, notion de structure en mathématiques. Donc on veut identifier des structures isomorphes, mais il peut y avoir plusieurs identifications possibles. Donc c'est un exemple où en mathématiques, il est naturel de considérer que le type des identifications a plusieurs éléments. Donc c'est ce qui a été étudié donc, par Bourbaki dans le chapitre « Théorie des structures ». Et cette notion-là est essentielle pour la pratique mathématique. Donc, c'est très utile pour l'abstraction et pour la modularisation. Donc, le même raisonnement abstrait peut être instancié par des structures concrètes différentes. Donc, cette notion d'identification est absolument essentielle en mathématiques. Et bien sûr, elle est liée à la question de modularisation aussi pour le développement de programmes, donc les idées de paramétricité. C'est essentiel en mathématiques. Donc, notion de deux structures sont isomorphes. Quand on réalise ceci, donc ça peut être très important en mathématiques, parce qu'on peut transporter les intuitions d'une structure sur une autre. Donc on peut résoudre un problème en le transformant en un problème sur une structure isomorphe. Donc exemple, la correspondance de Galois. Donc, c'est un exemple paradigmatique de cette de cette importance de transport de structures sur une autre, isomorphes sur une autre. Alors, en théories ensemble, un aspect intéressant, c'est que toutes les propriétés ne sont pas transportables. Donc, si on prend l'exemple des groupes, par exemple, donc deux groupes isomorphes vérifient les mêmes propriétés, mais seulement propriétés qu'on peut appeler structurales, ou que Bourbaki appelle transportables. Donc, l'exemple, c'est si un groupe est commutatif, l'autre est commutatif. Si un groupe est résoluble, un groupe isomorphe est aussi résoluble. Mais une propriété qui n'est pas transportable, c'est contenir un élément donné. Par exemple, un groupe peut contenir l'ensemble vide et pas un groupe isomorphe. À ce groupe-là, peut ne pas contenir l'ensemble vide. Donc, en théorie ensemble, toutes les notions ne sont pas transportables. Donc là, l'idée qui est nouvelle en théorie des types, et qui est un principe, donc qui était un des principes directeurs de Wojewski, c'était que est-ce qu'on peut avoir un formalisme pour représenter les mathématiques où toutes les notions sont invariantes, sont transportables. Donc, toutes les notions sont peut-être invariantes par isomorphisme et équivalentes. Donc là aussi, un des points de discussion contemporains, c'est que c'est une forme très très forte du principe de modularité, d'extensionnalité, mais c'est une forme qui peut-être est trop forte. Donc là, il y a une bonne discussion sur cette question-là. Donc, c'est l'exposé assez récent, donc en septembre 2018, l'exposé de Pierre Deligne, qui présente le système de Wojewski, donc « What do we mean by equal ?», qui est disponible sur YouTube, donc, où il discute cette question-là. Et en fait, il remarque, il fait la remarque que avoir un formalisme-là lui rappelle fortement en fait, ce qui se passe dans le livre 1984 avec le notion de novlangue, d'accord, où effectivement c'est un langage où on ne peut pas formuler des notions hérétiques, mais c'est parce que le langage est trop rigide. D'accord. Donc la question c'est peut-être avoir un tel système est trop fort et ne va pas être assez souple pour exprimer les notions mathématiques. Donc ça c'est une question qui est ouverte encore maintenant. Donc, la notion d'identification, telle que je l'ai décrite de structure isomorphe, cette notion d'identification a été généralisée donc, en mathématiques. Et là, il va y avoir donc, des points de correspondance remarquables avec ce qui va se passer en théorie des types. Donc, la généralisation, c'est la généralisation suivante. Si on prend la collection de tous les groupes ou de tous les ensembles, on obtient une notion nouvelle d'identification qui n'est plus la notion d'isomorphisme. Donc, par exemple, deux exemples de telle collection, plus grosse collection, c'est la notion des familles d'ensembles sur un ensemble donné B et la notion des ensembles au-dessus de B, donc la collection des ensembles des paires Y et F, où F est une fonction de Y dans B. Et cette première collection, c'est la collection des familles d'ensembles XB, où B est dans B. D'accord ? Donc là, c'est deux collections et qu'un mathématicien va considérer que ces collections satisfont les mêmes propriétés structurelles. Donc, il doit être de bonne pratique mathématique de ne pas pouvoir formuler des notions qui vont faire une distinction entre cette collection et cette collection. Mais cette notion d'identification est maintenant beaucoup plus subtile, parce qu'en fait, donc on peut définir des fonctions de F et G de cette collection dans cette collection, cette collection dans cette collection, mais F et G ne vont pas constituer un isomorphisme entre les collections. Si on compose G et F, GF de X ne va pas être égal à X, mais va être seulement isomorphe à X. Donc en fait, ces deux collections ne sont pas isomorphes, mais elles sont seulement, donc ce qui est en mathématiques, elles sont seulement équivalentes au sens catégorique. Donc F et G ne définissent pas un isomorphisme. Donc là, la pratique mathématique suggère qu'il y a une notion, nouvelle notion d'identification qui n'est pas la notion d'isomorphisme. Donc on obtient un nouveau moyen d'identifier les collections et on obtient aussi une nouvelle notion de transport de structure. Donc, par exemple, la structure de catégorie cartésienne fermée sur cette collection doit pouvoir se transporter sur cette collection-là. Mais c'est une nouvelle notion de transport de structure qui n'était pas considérée par Bourbaki. Et là, donc cette notion est moins intuitive que la notion d'isomorphisme. Donc, par exemple, si on prend la collection de tous les ordres linéaires avec 5 éléments, donc c'est un groupoïde en théorie d'ensemble, un ensemble très gros, mais en fait, ce groupoïde-là va être identifiable au groupoïde trivial qui a un seul élément et une seule flèche. Donc, c'est une notion d'identification qui est un peu surprenante, mais qui peut être aussi intéressante au niveau calcul. Donc là, et qui est effectivement considéré donc calcul formel. Donc un système qui considère ça, c'est le système de Mohamed Barakat. Donc ça, c'est un exemple d'identification qu'on veut faire, qui utilise cette notion d'équivalence. Donc Mohamed Barakat remarque qu'en fait, cette notion peut être intéressante de manière algorithmique, parce que donc c'est la même notion qu'on va pouvoir transporter un problème sur une autre, mais là, c'est même plus intéressant. Donc on peut, de cette manière-là, on peut ramener des calculs doublement exponentiels à des calculs polynomiaux avec cette notion de transport de structure. Donc c'est une notion qui est relevante au niveau, qui est pertinente au niveau des calculs. Alors, donc cette notion d'identification a été généralisée encore en mathématiques. Donc là, ce que j'ai considéré, c'est le niveau des groupoïdes, mais on a aussi le niveau des doux groupoïdes, et puis les n groupoïdes et les infinités groupoïdes. Et ces lois d'identification donc sont tout à fait mystérieuses quand on généralise ça, et sont reliées au groupe d'homotopie des sphères. Donc, par exemple, le fait que des lois d'identification ne soient pas strictes sont liées de manière très étroite à des égalités telles que π3 de S2 égale z. Donc ça, c'est tout à fait mystérieux. Et donc en 84 aussi, Grothendieck, en fait, remarquait qu'il devait y avoir une correspondance assez étroite entre ces lois d'identification et le domaine de l'homotopie. Donc cette correspondance on fait souvent référence à Grothendieck pour cette correspondance, et à Esquisse des programmes. Malheureusement, dans Esquisse d'un programme, donc tout ce qu'il dit sur cette correspondance, c'est ça. C'est trois lignes. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces lois d'identification en théorie des types? Donc, est-ce qu'on peut utiliser l'identité telle qu'elle va être introduite par Martin Löf pour représenter ces ondes d'identification? Malheureusement, non. Donc, il manque un des aspects, donc, qui va être bien sûr l'axiome d'univalence. C'est que l'égalité introduite par Martin Löf ne vérifie pas ce principe de modularité. Donc si on considère ces deux fonctions-là, en F et G, donc elles seront égaux extensionnellement, donc elles doivent être indiscernables, elles ont le même comportement entrée et sortie, mais on peut la propriété donc être égale à F et vérifiée par F et n'est pas vérifiée par G. Donc c'est... on peut les distinguer dans ce système-là. Donc on ne peut pas transporter les propriétés de F aux propriétés de G. Donc ce qui manquait, c'était une loi nouvelle pour l'identification. Et donc c'est la loi qui a été formulée par Wojewski. Et donc ce qui est remarquable, c'est que si on considère ce qui se passe dans la pratique mathématique, où on a cette notion d'équivalence, on veut formuler une notion d'équivalence entre collections mathématiques. Cette notion d'équivalence semble de plus en plus subtile et au fur et à mesure qu'on monte dans les niveaux d'abstraction. Wojewski va obtenir une manière uniforme de formuler la loi qui gouverne l'identification en mathématiques, donc c'est l'axiome d'univalence, et c'est une version, proposition comme type, de l'axiome d'externationalité pour les propositions telle qu'elle avait été formulée par Church en 1940. Donc Church formulait cette loi-là, ne le prenait pas comme axiome, mais disait que c'était possible d'ajouter cet axiome-là. Donc la formulation de Church, c'était que l'équivalence logique entraîne l'égalité, mais bien sûr, l'égalité implique toujours l'équivalence logique, donc on peut la formuler comme de cette manière-là. Et une des formulations possibles donc, de l'action d'univalence, qui est très naturelle, donc, c'est de remplacer les propositions comme des types, c'est cette formulation-là, où l'équivalence logique va être représentée par cette notion d'équivalence sur les types, telle qu'elle était formulée par Wojcicki. Et donc, ce qui est remarquable, c'était cette manière de formuler l'équivalence est possible dans ce formalisme de la théorie des types, est possible et très simple. Donc, il y a juste besoin de trois lignes. Donc, formellement, c'est très simple de formuler cette loi d'équivalence, mais c'est remarquable qu'une formulation si simple soit possible. Et le fait qu'on puisse le formuler de manière très simple utilise de manière essentielle les types dépendants. Et un des aspects remarquables donc, des travaux de Wojcicki, c'est qu'il a suivi aussi la méthodologie de Gérard Huet de tout représenter sur machine. C'est que non seulement donc, il a remarqué que c'était possible de faire ça, mais il l'a effectivement réalisé. Et donc, il a effectivement construit une librairie de mathématiques formalisées qui est effectivement représentée sur machine. Et il l'a fait donc, en 2010, et résumé cette formalisation dans ce papier-là. Ce formalisme des types dépendants est bien approprié pour exprimer les lois notions d'identification entre deux collections. Un des aspects donc, tout à fait surprenant de cette approche, c'est que dans c'est que les univers type N ne sont pas des ensembles. Donc au sens technique, tel que Xavier l'a présenté la semaine dernière, donc on peut montrer avec l'action d'univalence, on peut montrer que ces univers type N ne sont pas des ensembles. Pourquoi ? Parce que Boole est un élément de type N et il y a deux manières d'identifier Boole à lui-même, donc, parce qu'il y a un automorphisme non trivial de Boole. Et quand on regarde ceci, en fait, il y a d'autres exemples très naturels en mathématiques. Donc là, je fais aussi référence aux exposés de Pierre Deligne et de Dan Grayson, donc, qui sont disponibles sur YouTube. Un exemple très, très naturel d'une collection en mathématiques qui est naturelle, qui n'est pas un ensemble, c'est la collection de tous les triangles. Donc un triangle équilatéral s'identifie à lui-même donc, de six manières différentes. Parce qu'il y a six automorphismes d'un ensemble à trois éléments. Donc il est assez naturel en fait, de considérer que la collection des triangles n'est pas un ensemble, en ce sens technique-là. Ce fait-là, donc, que une collection de collections n'est plus de même nature que collection dont on part, donc ça, le formalisme de la théorie des ensembles n'est pas, ne reflète pas ce phénomène-là. Donc en théorie des ensembles, si on prend la collection de tous les ensembles, c'est encore un ensemble, donc de même nature que les ensembles, c'est juste qu'il est plus gros. Mais, en mathématiques, un autre exemple où on a ce phénomène, c'est si on prend donc, les faisceaux. Donc, dans ce cours, il y a eu beaucoup d'exposés sur les forcing, sur les modèles de Kripke et la notion de faisceau. Donc quand on prend la collection de tous les faisceaux, de manière naturelle, cette collection-là ne sera pas un faisceau. Parce que, donc, si on essaye de recoller des faisceaux qui sont compatibles 2 à 2, on pourra les recoller, mais le recollement ne sera pas unique en général. Il sera seulement unique à isomorphisme près, dans certains cas. Donc, la collection de tous les faisceaux n'est pas un faisceau. Et en mathématiques, donc, les mathématiciens ont introduit une notion qui généralise la notion de faisceau, la notion de champ, où on doit considérer cette notion d'identification à isomorphisme près. Donc ça, c'est un phénomène qui apparaît purement par le formalisme en théorie des types, qui reflète aussi la pratique mathématique. Et alors, je voudrais donner un exemple aussi qui est dans ce formalisme. Donc qu'est-ce qui se passe quand on représente la notion de faisceau, cette notion de ce problème-là, que la collection de tous les faisceaux n'est pas un faisceau. Donc c'est une notion qui devient très uniforme dans ce formalisme. Donc c'est une notion de modalité exacte à gauche, donc qui suggère donc la bonne manière de représenter la notion de faisceau dans ce formalisme de la théorie des types univalente, qui est présentée dans ce papier-là. Donc qui devient la notion de modalité, donc qui va généraliser la notion de monade. Donc là, c'est un exemple possible. Donc c'est si on a une famille de propositions, au sens où, qui a été présenté la semaine dernière, au sens technique de la théorie des types, on peut toujours considérer donc, cette famille d'applications de x dans x puissance ba, qui est la fonction constante. Et on peut considérer cette notion-là, donc g va être une fonction de type n dans type n, qui va être une modalité, donc vue au sens de Curie-Howard. Donc, modalité, logiquement, c'est quoi ? C'est un opérateur sur les propositions. Modalité en théorie des types, ça va être une opération sur les types. Donc, on a cette modalité-là, g de x, donc, qui dit que x est modal. Et g de x dit que toutes ces applications constantes sont des équivalences. Et en fait, donc ça, c'est une manière possible de représenter la notion de faisceau en théorie des types univalentes, donc qui généralise la notion de modalité de Lovir-Tierney en théorie des faisceaux. Et donc G de X, comme être une équivalence, c'est une proposition, donc G de X va être une proposition pour chaque X. Et donc le problème de la collection de tous les faisceaux n'est pas un faisceau, dans ce formalisme, devient, quand on forme le type de tous les types X qui vérifient la propriété G de X, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce type ? Et ce qui est remarquable, c'est que ce type-là donc, vérifie la propriété G. Et la preuve est très très simple. Et, donc en fait, le problème de que la collection de tous les faisceaux est un faisceau disparaît dans ce formalisme, et ça correspond donc, au fait que on a une notion de faisceau qui a l'air de passer à tous les niveaux d'équivalence. Sur quoi je voudrais insister, donc sur les développements récents du domaine, donc c'est ce que je trouve très intéressant, donc c'est un rapprochement des considérations informatiques et considérations mathématiques, telles que la notion de champ. Donc par exemple, ça c'est ce résultat-là, donc est dans ce papier-là. Mais donc une des idées qui vient de l'informatique, une idée qui a été développée dans le groupe de Nicolas Tabarot, c'est l'idée de représenter systématiquement ces interprétations logiques comme transformations de programme. Et là, donc on obtient une formulation très intéressante de ce qui se passe avec les modalités. C'est qu'on peut formuler ça comme un modèle interne de la théorie des types. Donc on va obtenir un nouveau modèle de la théorie des types, mais maintenant, ces modèles-là vont représenter le fait que les faisceaux forment un modèle de la théorie des types, mais ces faisceaux, ça se sent généralisé. Et donc c'est une formulation qui est vue comme une transformation de programme, donc telle qu'elle a été décrite déjà dans ce cours. Donc on a une transformation de programme très simple, où un type est interprété comme un type qui vérifie la propriété G, avec une preuve que ce type vérifie bien la propriété G. Donc on obtient une transformation où il y a le point subtil, c'est qu'on a une sémantique différente pour les types et les éléments, mais avec une relation très simple. Et la transformation sur les éléments est très très simple, très uniforme. Et on obtient donc un nouveau modèle de la théorie des types qui vérifie l'axiome d'univalence. Et cette formulation-là n'a été possible que parce qu'on a un mélange de considérations informatiques et de considérations mathématiques, purement mathématiques et logiques. Un autre point donc un des points de discussion actuels du domaine, en fait, c'est le. Donc, qui est là dès le départ, donc, quand on a essayé de résoudre ce problème de représentation des types de données Donc, on a introduit cette hiérarchie d'univers. C'est que, en fait, donc, on n'a pas encore une bonne compréhension de la représentation de cette hiérarchie d'univers. Et donc, un exemple aussi récent de ce manque de compréhension, donc, c'est l'axiome de redimensionnement de Voïvodski. Donc, on a cette notion d'opération, une autre, un exemple de modalité, mais qui n'est pas exacte à gauche. C'est la notion de modalité troncation propositionnelle. Et Voïvodski l'a définie donc, de cette manière-là, donc de manière qui ressemble à ces codages imprédicatifs, mais avec un type prédicatif. Et donc ce codage-là ne vérifie pas aussi, n'est pas très naturel. Et à cause de ce problème-là, donc, Voïvodski introduit des axiomes de redimensionnement donc, qui ressemblent très fort aux sortes imprédicatives. Donc un des axiomes de redimensionnement va dire qu'on va pouvoir considérer qu'un type X est de type 0, même s'il est dans le type M, mais si on peut prouver que ce type est une proposition. Un autre exemple de redimensionnement, ça va être de considérer que donc, si deux catégories sont équivalentes, et si une est dans un type est de type 0 et l'autre est de type 1, en fait, on va pouvoir considérer que les deux collections sont dans type 0. Donc on obtient un type des propositions qui est très similaire au calcul des constructions, qui est un prédicatif, mais qui vérifie une forme très forte de l'axiome du choix unique, donc qui manquait au calcul imprédicatif, donc on n'avait pas cet axiome du choix unique, qui correspond donc à un symbole donc qui était un symbole iota dans le système de Church, mais dans le système de Church, on avait besoin d'un axiome pour manipuler ce symbole iota, donc là, dans ce système-là, ça va être... on peut prouver les règles du calcul de Church, mais on a un grand problème de cohérence parce qu'on obtient un système qui semble en fait très très proche des systèmes dans lesquels on pouvait formuler les paradoxes, le paradoxe de Girard. Donc ça, c'est un des problèmes ouverts du domaine. Un des problèmes aussi ouverts, c'est de mieux comprendre cette hiérarchie de l'univers et comment la représenter de manière satisfaisante dans ce formalisme. Donc en conclusion, conclusion de cette rétrospective, donc, c'est que je pense que le formalisme des types dépendants est bien approprié pour exprimer les lois de la notion d'identification entre deux collections. Donc on a un nouvel exemple tout à fait nouveau et intéressant donc, de Curie-Howard, donc correspondance entre égalité et identification. Et je pense donc qu'on a un bon mélange d'idées qui viennent de considérations relativement récentes en mathématiques. Donc la remarque de Grothendieck, donc c'était 1984, et des idées qui viennent de la sémantique de langage de programmation. Donc j'ai un peu dépassé le temps, donc je voudrais juste finir avec quelques bibliographies. Donc j'ai sur le sujet sur lequel j'ai travaillé, donc c'était de comprendre de manière constructive l'action d'univalence. Donc c'est travaux sur la sémantique de l'axiome d'univalence et aussi la sémantique des types HIT que Xavier a présenté la semaine dernière. Un papier récent donc, qui est un très bon exemple de mélange de considérations informatiques et d'idées sur l'homotopie. Donc, c'est ce papier-là qui a été présenté à cette conférence donc en 2018, qui utilise donc comment on peut utiliser ces idées-là pour avoir mieux représenté la paramétricité en théorie des types. Un des papiers qui utilise qui peut être très intéressant pour le futur, donc des mathématiques constructives, c'est ce papier de Max Schulman, où il analyse comment représenter le théorème du point fixe de Power dans une extension de la théorie des types, où on introduit des modalités. Ce papier, donc, qui est un papier avec beaucoup d'exemples qui montre comment on peut formuler des interprétations logiques comme transformation de programme. Je vais terminer là-dessus. Merci.